populaire en allumant votre radio. C'est quand Michael Jackson était encore noir. The Cure.
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir.
Tout est cassé dans le studio, mais nous sommes là. Et bonsoir, auditeurice. De quoi parlera-t-on ce soir?
Eh bien, après quelques petites brèves que vous découvrirez au moment où on les fera, on aura un invité qui viendra nous parler du Hirak, le mouvement de protestation en Algérie, dont c'était l'anniversaire des 2 ans la semaine dernière.
Ensuite, on parlera de la Birmanie où en fait les forces de l'ordre se mettent à tirer à balles réelles sur les manifestants.
Ensuite, on parlera de la réforme de l'assurance chômage qui revient à peine changée. Tiens.
Et puis, mobilisation au squat, le dur à cuire au Vinatier. C'était cet après-midi et notre envoyé spécial y était.
Et puis, on terminera par une rubrique « Faut que ça se sache ».
Avec des histoires de navires en Méditerranée, comme souvent finalement.
C'est ça.
On finira par un petit agenda, dis donc.
Et on aura une pause musicale.
Ouais.
Et tout de suite une virgule.
Ouais, trop bien. Et une virgule un peu...
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Info.
Alors samedi, des milliers de manifestants, donc 5500 selon la préfecture, quand les organisateurs en revendiquaient 15 000, ont défilé à Fort-de-France en Martinique contre la menace de la prescription dans le dossier de la chlordécone qui a été annoncée en visioconférence par 2 juges parisiens. Alors à juste titre, autant l'attitude que l'annonce ont été perçues par les populations antillaises comme un mépris affiché des souffrances liées à la chlordécone. La chlordécone, donc, c'est l'insecticide de la banane, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure. Raphaël Constant, qui est avocat au barreau de Martinique, témoigne dans Mediapart, je cite, « 13 ans après notre première plainte, l'affaire a été dépaysée à Paris, comme toujours, personne n'est mis en examen, nous apprenons que des pièces essentielles du dossier ont disparu et on voudrait nous faire croire que nous avons porté plainte trop tard ». Alors la mobilisation a pris ce week-end pour protester contre le déni de justice, la soi-disant perte des documents alors qu'ils sont parvenus à la commission d'enquête parlementaire de 2006 et le balayage du revers de la main de ces juges des plus de 90% de la population contaminée, un record de France des cancers de la prostate. Il serait scandaleux que, pour eux, en fait, que les criminels, les grands planteurs et ceux qui s'enrichissent de la banane et puis l'État qui les a laissés faire échappe à un procès qu'ils estiment juste. La toxicité, la persistance de l'insecticide dans l'environnement était connue depuis les années 60. Il est resté autorisé et massivement utilisé entre 72 et 93 dans les bananeraies des Antilles, en empoisonnant les sols, mais aussi les ouvriers agricoles. Et donc 90% de la population adulte a été possiblement en lien qui a été possiblement en lien donc avec le taux record du cancer de la prostate dont je parlais tout à l'heure. On ne va pas en détailler plus aujourd'hui sur ce que c'est que la chlordécone, mais vraiment un gros dossier que vous pourrez fouiller un peu par vous-même en allant par exemple feuilleter une très bonne BD documentaire qui s'appelle Tropique Toxique de Jessica Oublié, Vinciane Lebrun et Catherine Avram, qui a été publiée il n'y a pas très longtemps aux Escales. Alors, pour revenir aux manifestations de ce week-end, il n'y a pas eu un mot pour le plan Chlordécone 4 qui a été mis en avant par les préfectures de Martinique et de Guadeloupe dans des communiqués de presse qui ont été établis conjointement avec le ministère des Outre-mer et qui a été publié mercredi 24 février. Alors, dans ce document, les services de l'État indiquaient que c'était un plan qui a pour ambition de protéger les populations contre la pollution environnementale persistante, de prendre en charge ses impacts, qu'ils soient sanitaires, environnementaux ou économiques, et qui était doté de 92 millions d'euros sur la période 2021-2027. Alors, à l'heure de la possible, du coup, prescription des faits, le plan n'a convaincu ni les activistes ni les élus, encore moins la myriade de collectifs citoyens qui se battent pour la reconnaissance de leurs préjudices depuis de nombreuses années.
Canu Info. Du mercredi.
Il faut que les peines soient exécutées. La non-exécution des peines, c'est l'impunité. C'est Nicolas Sarkozy qui déclarait ça, alors pas hier, mais le 27 mars 2012, c'était un tweet de Nicolas Sarkozy. Pour autant, hier, il n'est pas allé se présenter à l'entrée de la prison en exigeant d'exécuter sa peine. Ça, c'était un tweet de 2012. En 2015, un autre tweet du même Nicolas Sarkozy. Je souhaite qu'il n'y ait pas de mesure d'aménagement de peine pour les peines supérieures à 6 mois. Bon, ben alors du coup, on souhaite qu'il aille réellement en prison et qu'il fasse de la prison ferme, même si on doute énormément que ça lui arrive un jour. Encore un petit tweet de Sarkozy. Nous devons tourner le dos à la culture du laxisme, de la déresponsabilisation, du désarmement pénal et moral. Eh ben oui, c'est que quand on est du côté du manche, on pense des choses, puis quand tout d'un coup, on se retrouve face au juge, eh ben généralement, on ne garde pas toujours les conséquences des conneries qu'on a dites quelques années plus tôt. Alors, lorsque les époux Balkany sont condamnés, ils sont invités sur toutes les chaînes de télé pour se défendre. Quand Sarkozy est condamné, lui et ses avocats sont invités par tous les médias pour se défendre. Idem pour Benalla, et etc., etc., etc. Quand des gilets jaunes sont arrêtés et envoyés derrière les barreaux sans pouvoir s'exprimer et en subissant des diffamations incessantes dans les médias, par contre, c'est autre chose. Pareil pour des milliers d'oubliés, d'exclus, de pauvres réprimés pour des délits mineurs. Les personnes mutilées par la police, elles, n'ont même pas le droit à la parole dans les médias. Cette nouvelle orgie médiatique en faveur de Sarkozy, en plus d'être écœurante, démontre une fois encore que les élites ont fait sécession. C'est un monde clos, privilégié au-dessus des lois, qui utilise la violence, le crime et les médias pour se couvrir. Les séparatistes ne sont pas les minorités religieuses en France, mais les séparatistes sont bien au gouvernement. Je remercie encore une fois, et comme souvent, le site Nantes Révolté pour m'avoir fourni mes brèves.
Canu Info.
À Athènes, des milliers de personnes sont descendues dans les rues lundi 1er mars et puis de nouveau des centaines mardi en soutien à Dimitris Koufountinas, un ancien membre du groupe d'extrême gauche 17 novembre. C'est un prisonnier qui est en grève de la faim et donc qui est emprisonné mais en grève de la faim depuis 55 jours et qui est placé actuellement en soins intensifs et dans un état critique qui est proche du coma. C'est une grève de la faim qui fait suite à son transfert de la prison rurale de Volos, où il était détenu, à une prison de haute sécurité, donc Domokos, dans le centre de la Grèce, puisque en décembre 2020, le gouvernement conservateur de la nouvelle démocratie voter une loi interdisant les condamnés pour terrorisme à purger leur peine dans ce type d'établissement. Alors Dimitris Koufountinas entame alors sa grève de la faim pour demander son retour dans une prison plus proche de sa famille, qui serait tout de même sécurisée comme le pouvoir le veut. Alors, prétendument garante de la Constitution et des droits fondamentaux, la présidente ne répond plus, malgré les dizaines de milliers de messages de signatures qui lui ont été adressés. Et puis, ce qui a fait descendre les gens dans la rue et donner quelques affrontements avec la police un peu partout en Grèce, contre les, et puis aussi des attaques contre les symboles du pouvoir.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Alors figurez-vous qu'une députée, d'ailleurs une députée de droite qui s'appelle Véronique Louwagie, a mis la main sur un compte-rendu des dépenses du ministère de la Santé auprès de cabinets privés. On parle des cabinets de conseil, c'est-à-dire plein de gens qui sont payés pour donner leur avis sur la manière de faire ou d'organiser ceci ou cela, et à la fin de réfléchir à tout ce à quoi le ministère n'arrive pas à réfléchir tout seul. Donc c'est le cabinet McKinsey dont on parle depuis le mois de janvier, vu qu'il reçoit des sommes hallucinantes pour organiser la campagne de vaccination. La campagne de vaccination, on a bien compris, hein, c'est celle qui a permis d'administrer les deux doses nécessaires de vaccins à 1,5 million de personnes depuis le début de l'année. Autant dire que si ça continue à ce rythme, on en a encore pour 5 ou 6 ans pour vacciner à peu près tout le monde en France. Bref, McKinsey n'est pas le seul cabinet de conseil rémunéré par le ministère de la Santé. On trouve aussi des Sitwell, des Accenture, des CGI Entreprises et quelques autres. McKinsey a touché à lui tout seul 3,2 millions d'euros. Mais si on compte tout, c'est bien 11 300 et quelques 1000 euros que le ministère a filé à 7 cabinets de conseil entre mars 2020 et janvier 2021, donc un peu moins d'un an, mais la crise du Covid. Pendant ce temps, par souci d'économie, le ministère de la Santé continue à fermer des lits. Le site Nantes Révolté, toujours lui, qui a attiré mon attention sur cette info, conclut en disant « L'État français est privatisé jusqu'au sommet, une hybridation entre régime autoritaire et entrepreneuriat tout puissant, quitte à distribuer des sommes folles à des consultants privés, et puisque ce gouvernement est déjà néolibéral et autoritaire, autant virer tout de suite les ministres et le président, ça fera des économies. »
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Alors pour introduire l'interview qui va suivre, je vais revenir rapidement sur les épisodes précédents. On parle bien de l'Algérie et on va remonter, mais alors rapidos quand même, mais jusqu'aux années 90. Puisque dans les années 90, l'Algérie a vécu ce qu'on a appelé la décennie noire, 10 ans de violence entre les terroristes, entre guillemets, et les militaires qui gouvernaient le pays. Alors un ami qui avait fui le pays vers la fin de cette période m'avait expliqué que si on savait qui mourait, souvent, on ne savait pas qui avait tué, puisque une partie des terroristes étaient des agents du gouvernement infiltrés chez les terroristes. En 1999, il y a eu des élections présidentielles, et c'est à ce moment-là que Abdelaziz Bouteflika a été élu. Il était le premier président depuis l'indépendance qui ne faisait pas partie du FLN, et même si quelques années après, il en a fait partie, il en est même devenu le président d'honneur en 2005, quand il était déjà président du pays. Et surtout, Bouteflika met en place une politique d'amnistie, tant pour les terroristes que pour les militaires, et il réussit quand même à ce moment-là réellement à mettre fin à cette guerre civile et à ces massacres. Grâce à la rente pétrolière, le gouvernement peut aussi lâcher assez facilement de l'argent à qui lui en demande, et ça aide quand même beaucoup à maintenir la paix sociale. Bouteflika s'installe durablement au pouvoir. Il est entouré de plein de gens, des militaires, des membres du FLN, tous ces gens qui constituent le système et qui tapent abondamment dans la caisse. En 2013, le président fait un AVC. Dès lors, il est réduit à l'état de légumes et ne fait plus que de très rares apparitions en public. Sa première apparition après ça, c'est pour aller voter pour sa propre réélection en 2014, puisque en 2014, après son AVC, et alors que vraiment c'est une sorte de légume baveux, il se représente à la présidentielle et il est réélu, bizarrement. Mais en fait, tout ça s'explique par le fait que les Algériennes et les Algériens ont vraiment hyper peur du retour de ces années noires si quoi que ce soit changeait. Donc les gens revotent quand même pour lui. En février 2019, quand il est question de prolonger le mandat du président, et aussi qu'il se présente encore une fois, alors que pour le coup, il ressemble vraiment plus à rien, quoi. Le pays, à ce moment-là, se révolte et descend dans la rue. Ça, c'était il y a 2 ans. C'est le mouvement qui s'appelle le Hirak. Le pouvoir hésite un petit peu entre répression, indifférence, promesse. Ça tangue pendant quelques mois et à peu près deux mois après, le 2 avril 2019, Bouteflika démissionne. En tout cas, les gens qui manipulent la marionnette Bouteflika la font démissionner. C'est le moment d'une grande panique dans les cercles du pouvoir et les cercles de l'argent aussi. Des gens s'enfuient du pays, d'autres sont arrêtés, passent en procès même, mais d'autres encore restent en place et tiennent le système d'une main de fer, tout en promettant que les protestations ont été entendues. Et la preuve que les protestations ont été entendues, c'est donc que le président a dégagé et que maintenant on va organiser des élections. Donc il y a bien un changement du pouvoir. Et c'est le 13 décembre 2019 que ces élections étant organisées, Abdelmadjid Tebboune est élu président de la République. Alors élection avec quand même grosse abstention, je ne me rappelle plus des chiffres, mais en tout cas le Hirak avait appelé au boycott et ça a été massivement boycotté. Bon, selon Abdelmadjid Tebboune, le nouveau président, lui, il explique qu'il a compris les protestations et d'ailleurs Bouteflika n'est plus président, donc tout va bien, tout le monde a gagné et tout le monde doit rentrer à la maison, c'est le retour à l'ordre. Sauf que le peuple algérien n'est pas du tout de cet avis et il considère plutôt que le président Tebboune représente le même système et que rien en fait n'a changé. Les manifestations continuent, mais là la répression devient quand même nettement plus méchante et pas mal de monde finit en prison, qui pour une manifestation ou qui pour un post Facebook. Là-dessus, le Covid arrive et calme les manifestations. Au mois d'octobre dernier, là, le président Tebboune lui-même chope le Covid. Il est hospitalisé, alors d'abord vite fait en Algérie, mais bon, comme il va mal, en fait, on l'emmène en Allemagne, parce qu'en Algérie, il n'y a quand même pas vraiment d'hôpitaux qui sont capables de soigner correctement un président de la République, même si pour tout le reste de la population, c'est quand même de ces hôpitaux qu'il faudra se contenter. Et donc, Tebboune reste en Allemagne jusqu'au 10 janvier. Et puis quand il revient sur les chapeaux de roue, quelques semaines avant l'anniversaire des 2 ans du Hirak, et dans la crainte d'un retour des manifestations à l'occasion de ces 2 ans, il libère d'abord quelques prisonniers politiques, et puis aussi il fait un remaniement ministériel, il dégage des ministres, il en nomme des nouveaux. Peine perdue, puisque la semaine dernière, au moment de l'anniversaire, les manifestations qui se sont succédées plusieurs jours de la semaine ont été énormes.
Et du coup, on va revenir un peu sur ces manifestations. Est-ce que, du coup, il y a eu d'immenses manifestations qui ont eu lieu pour les 2 ans du Hirak? Est-ce que toi, tu pourrais un peu dire, est-ce que déjà ces manifestations, elles étaient seulement à Alger, dans tout le pays, et à peu près l'ampleur qu'elles avaient?
Ouais, bonjour. Oui, maintenant, il y a beaucoup de monde. Ils sont sortis maintenant à cause... Parce qu'il n'y a rien changé, même cette présidente. Maintenant, la situation là-bas, c'est pire qu'avant. Les gens, ils ne sont pas bien, il n'y a rien changé dans l'Algérie. C'est pour ça qu'ils sont sortis maintenant, ils sont sortis dans toute l'Algérie. À Annaba, Alger, Oran, Constantine, El Bourg. Cette ville-là, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout Alger, la capitale.
Et parce que quand tu dis que rien n'a changé, ce que tu m'expliquais tout à l'heure quand on préparait l'émission et ce que tu disais un peu tout à l'heure, Yvan, c'est en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en Algérie, ce que tu appelais le système, c'est ouais. qu'il y a les présidents et ministres qui sont là, mais c'est pas forcément eux qui vont décider ou en tout cas qui vont dire comment va aller, vers quelle orientation va aller le pays. Toi, tu parlais tout à l'heure du pouvoir des généraux. Ouais. Qui en gros place un peu les présidents ou l'opposition pour savoir dans quel jeu tout ça sera un peu plus favorable pour vers là où ils ont envie d'amener le pays, quoi.
Ouais, c'est ça. Nous, chez nous en Algérie, c'est les généraux qui décident, parce que normalement le Hirak il est sorti pour il sort tout et il reste personne comme les généraux, les présidents, les ministres, tout. Mais finalement, les généraux, ils sont par que 2-3 personnes. Et après, maintenant, il y a 2 clans. Il y a 2 clans qui décident maintenant. C'est pas Tebboune, le président, il y a 2 clans. Parce que, comme Bouteflika, il est parti, il y a un général, il s'appelle Gaïd Salah, c'est lui qui prend les clés de l'Algérie. Et c'est lui qui décide Tebboune président. Et après, cette générale, il y a 10 généraux, les autres généraux, ils sont contre lui. Il y a 2 clans. Et le général, là, il a mis l'autre clan dans le prison. Et après, comme Tebboune, maintenant, il est président, il est mort, le général, là. Et maintenant, Tebboune, il n'a pas la force comme avec le général... avec le général Gaït Salah.
Tu veux dire que comme Gaït Salah est mort, Tebboune, du coup, il est pas très sûr de lui parce qu'il a...
Ouais, il n'a pas beaucoup de pouvoir maintenant. Et maintenant, comme les autres, les généraux, les autres et tout, ils sont dans le prison. Normalement, avant, le juge, il a décidé pour chaque général 15 ans, minimum, c'est 15 ans, 10 ans. Et maintenant, ils sont sortis un par un. Et les autres, c'est des assassins, des voleurs. Ils sont dit même combien ils sont volés. Ils sont volés de l'argent. Je ne sais pas, il y a un ministre, il a volé, je pense 300 milliards d'euros, je ne sais pas combien. Ils sont même avec l'argent, ils sont volés, ils construisent notre Algérie, deuxième étage de l'Algérie. Tellement, si une personne, il a volé beaucoup d'argent.
Et du coup, c'est un peu contre ça que les gens sortent dans la rue, c'est pour dire qu'ils en ont un peu marre de ce système-là, de voter ou de pas voter pour des présidents, mais en réalité c'est pas les présidents qui vont faire la politique du pays. Et en tout cas là, est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'organisent les manifestations en ce moment en Algérie? Est-ce qu'il y a des rendez-vous tous les mois, toutes les semaines, deux fois par semaine?
Ouais. Maintenant les manifs en Algérie, il y a 2 manifs en Algérie maintenant. Il y a une manif de les étudiants. Mercredi, il y a manif pour tout le monde, tu vois. C'est vendredi parce que tout le monde, il travaille pas. C'est le week-end, vendredi, là-bas. En plus, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il est sorti ce moment. Mais c'est un peu difficile maintenant. La police, il tape les gens. Et il prend les leaders de les manifs en prison.
La répression a augmenté. Par rapport à il y a 2 ans, tu veux dire?
Oui. Maintenant, même quand tu parles, je sais pas, tu parles un truc mal à pouvoir, tu as les prisons, même tu n'as rien fait.
Tu veux dire, notamment, j'imagine, sur les réseaux sociaux ou des trucs comme ça?
Oui, surtout sur les réseaux sociaux. Même tu es allé, il y a le fois passé, il y a une personne, il est allé à l'hôpital, il a fait une vidéo parce que l'hôpital il est sale, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les machines, il n'y a rien. Et après, la police, il a pris lui en prison. Ouais.
Et est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qui se passe et ce qui se dit dans les manifestations qui ont lieu actuellement? C'est quoi ce que les gens réclament
Oui, ils réclament pour on change tout le pouvoir. Il dit aussi, moi, c'est le truc que j'aime bien, les généraux à la poubelle et l'Algérie, elle prit l'indépendante. Et il y a aussi l'Algérie, état civil, pas état militaire. L'indépendante. Je sais pas.
Et est-ce que tu peux nous dire un peu, qui est-ce qu'il y a dans la rue en ce moment en Algérie? Est-ce que c'est plutôt des jeunes retraités, des jeunes étudiants, étudiantes? Est-ce que c'est parce qu'en Algérie, ce qu'il faut bien capter, c'est quand même l'immense majorité de la population ce sont des jeunes. Ouais. Est-ce que ce sont eux qui manifestent
Ouais, c'est ça, c'est tout le monde. Même les gens. C'est même les grands jusqu'à les petits. C'est tout le monde, ils sont sortis. Même il y a des enfants de 5 ans, 6 ans, ils sont sortis dans l'arrêt. Et les gens, tu vois, moi je connais des personnes, ils sont 20 ans. Il est né jusqu'à maintenant 20 ans, il est Bouteflika, il est président, tu vois, il est grandi avec Bouteflika. Il connaît que Bouteflika dans la télé, t'imagines. Et oui, c'est dur un peu là-bas, c'est pas... En plus, ce moment, c'est à cause de Covid et le truc. Et c'est rien changé, quoi, là-bas.
Et est-ce que, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner un peu la... La situation par rapport au Covid, j'imagine que ça a dû compliquer un peu ça a dû dégrader un peu les conditions de vie des gens. Ouais. Comment ça se passe là-bas en ce moment? Est-ce qu'il y a des histoires de confinement? Est-ce qu'il y a des histoires de...
Nous, en Algérie, on n'a pas fait le confinement là-bas. On a fait que le couvre-feu. Jusqu'à maintenant, il y a 10 villes comme ça. Il est du couvre-feu jusqu'à 20h et jusqu'à 22h. Mais avant, il a fait le couvre-feu jusqu'à 14h, 15h. Mais maintenant, comme le fois passé, il dit qu'il n'y a pas beaucoup de cas. Il y a 10 ou 20 cas. Et ils lèvent le confinement. Et tout le monde, ils sont sortis, il n'y a rien. Et après, comme les gens, ils sont sortis dans la rue et tout, les manifs et tout, et le ministre de Santé, la dernière fois, il dit... Maintenant, il y a le nouvel corona,
le variant.
Le variant, il est rentré. Mais c'est pas vrai, c'est à cause de les manifs. Parce qu'il voit, il y a beaucoup de monde, il est sorti dans les manifs et tout. Il dit, il faut qu'on trouve un truc comme ça pour les gens. Ils rentrent, ils sortent pas.
Toi, c'est quoi ton sentiment un peu sur... est-ce que le mouvement, il a l'air de repartir et de continuer? Ou est-ce que c'est genre, on fête les 2 ans et il y a peu de chances que ça continue? Est-ce que t'as un avis là-dessus ou pas du tout?
Moi, normalement, les manifs, maintenant, ils sont sortis. Et ils sont... À chaque fois, il y a 10 mondes, ils viennent. Il n'y a pas 10 mois. Ça veut dire que chaque semaine, il y a le plus... Le monde, ils sont sortis parce que les gens, il y en a marre là-bas. Parce que tu vois, le pouvoir, il n'a pas changé. Nous, Tebboune, cette présidente, on connaît déjà. Il est avant, c'est le premier ministre de l'Algérie. Et avant, il est maire de la ville. Il est ministre de travaux, ministre de santé. Il travaille dans plusieurs postes dans le pouvoir, là. Mm-hmm. Mais c'est lui aussi, il est voleur comme les autres, c'est pareil. On n'a rien changé. Et comme ça, les gens, ils sont sortis. Parce que lui, il a dit, comme Bouteflika, il est parti, lui, il dit, je ne suis pas le parti de l'FLN, je suis notre parti, moi, je mets mon dossier, comme c'est... Mais c'est pas vrai, lui aussi, il est avec l'FLN et tout. C'est tout ça, c'est les gens comme ça, ils montent, ils disent des trucs comme ça pour... ils restent, ils volent l'argent, ils volent le truc.
Et ben en tout cas, nous, on va continuer à suivre ce qui se passe là-bas de près. Si toi, est-ce que tu as un truc à rajouter pour finir ou...
Ouais, moi...
C'est bon. Et ben écoute, en tout cas, merci beaucoup.
De rien.
Et puis on prendra régulièrement des nouvelles.
Merci.
Canu Info du mercredi.
جابوا الحرية عمرها لا جات شمريحة الأرض تفهم باللي بالدم نسقات جايبين الحرية ما بقاش قد اللي فات الشعب تعب طوال اللعب السوسة زايدة كلانا الهم وحب الماستير قرب لا فايدة في قلوبنا نايدة لا بريزون فايدة حرية منوطي والمحاكمة حامضة عدالة مغمضة حالتك يا بلادي مريضة مازالهم يضربوا فيها باش نبقى بعيدة ونعلي الراية البيضة
جيتو نتوما علينا ياك الحرب الباردة شبيبة مرمدة لا مافيا مقبضة ضربوك بخوك والخوانا بعضها حقدة
لا فيكتوريا لا سيزارة كي طولتي ندري حوما قاعي صفو مدامة بنتي لا فيكتوريا لا سيزارة كي طولتي ندري حوما قاعي صفو مدامة
C'est mon ADN, révolution dans les gènes, c'est mon ADN. Je connais les hommes et fils de femmes, c'est mon ADN. Donna Victoria dans les âmes, c'est mon ADN. Les compagnons dans la rue, rayon n'a pas le temps. Il y a des fleurs qui vivent et meurent avant le printemps. Plus important, nous insistons. On vivra comme des rois chez nous, pas comme des moutons. Ils nous mentent, ils nous trahissent, les traîtres vivent, les hommes subissent notre terre. Une marchandise, la devise, l'aéroport et la valise. L'aéroport et la valise. Me demande pas de quoi t'as besoin, pauvre fille. Je suis ni pauvre, ni la petite fille. J'ai grandi dans la douleur et dans la galère et dans la peine. J'ai appris à la dure, à la hache, au milieu de la haine. Qui saigne, la terreur qui règne, ma rébellion crie dans mes veines. Ouh. Ma rébellion crie dans mes veines. Donna Victoria dans mes gènes.
Chanter là.
Tu peux redire parce que ton micro était pas allumé. C'était qui qu'on a écouté comme musique?
Oui, c'est Raja Mizian.
Et la chanson s'appelait Donna Victoria.
Ouais, Donna Victoria.
Et on est toujours sur les Canu Info du mercredi. Donc, et on va parler maintenant de la Birmanie. En fait, où il y a eu, vous vous souvenez, le 1er février, un coup d'état militaire contre Aung San Suu Kyi. Et là, les manifestations, enfin donc depuis le 1er février, il y a pas mal de manifestations contre ce coup d'État. Et ces derniers jours, elles ont fait face à un tournant de violence puisque, de la part des forces de l'ordre, puisque les forces de l'ordre se mettent à tirer à balles réelles sur la population. Donc, en plus de l'usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Aujourd'hui, il y a eu au moins 17 morts et de nombreux blessés, dont plusieurs sont encore dans un état critique. Et les manifestations se poursuivent aussi aujourd'hui dans plusieurs villes du pays, notamment à Rangoon, la capitale économique, de la Birmanie, donc, où les manifestants manifestantes ont bloqué la route avec des pneus et du fil barbelé pour empêcher la police de s'approcher d'eux. Dans le centre de la ville, les manifestants manifestantes ont parsemé le sol de portraits imprimés de Min Aung Hlaing, qui est le général responsable du coup d'État. C'est une bonne tactique. En fait, c'est une tactique pour ralentir les forces de sécurité qui font tout pour éviter de marcher sur les portraits.
C'est génial.
Voilà, bah c'est, ouais, après ça ne les empêche pas du coup de se faire tirer dessus. Hein. Un homme et son fils qui par exemple filmaient un passage de soldats dans la rue depuis leur appartement se sont fait tirer dessus. Apparemment ils ne sont quand même pas morts. Une vidéo fait par exemple le tour des réseaux sociaux aussi, on y voit des policiers en train de frapper le personnel médical d'une ambulance avant de détruire le véhicule. Dans les rues, les militaires tirent sur les gens, a priori sans raison. Il ne semble pas du coup tellement s'agir de disperser les manifestations. Alors la télévision d'État, MRTV, qui parle des événements, fait pour sa part état de 4 morts à Moniwa, des protestataires qui seraient morts en échangeant des coups de feu. La télévision d'État donc affirme que les tirs ne provenaient ni de la police ni de l'armée. Ce sera les manifestants qui se tirent dessus entre eux, quoi. Six journalistes birmans, dont Tainzo, un photographe de l'agence américaine Associated Press, ont été arrêtés, inculpés. On les accuse d'avoir, je cite, causé la peur dans la population, répandu de fausses informations ou incité des employés du gouvernement à la désobéissance, d'après leur avocate. La journée de dimanche du week-end dernier avait aussi été particulièrement meurtrière. Il y avait eu au moins 18 morts dans les rangs des manifestants, d'après les Nations Unies. Jour après jour, la répression du coup s'accroît. Il y a aussi eu des coupures d'internet, renforcement de l'arsenal répressif, des vagues d'interpellations, et puis donc, comme on en parle, le recours à la force létale. Alors, la junte intensifie sa réponse au rassemblement anti-coup d'État, devient de plus en plus meurtrière, et sans finalement faire grand cas des dirigeants internationaux qui appellent toujours à la retenue, à la libération d'Aung San Suu Kyi. Voilà, on voit que c'est très efficace. Et malgré ça, donc, les protestations continuent à descendre dans les rues pour demander le départ des généraux putschistes, la libération des centaines de détenus emprisonnés ces dernières semaines.
Canu Info.
Ah, et alors la réforme du chômage est en train de revenir.
Et oui, on en avait parlé beaucoup, beaucoup avant la crise du Covid, ici même, parce que c'était quand même des sacrées saloperies qui nous avaient préparé. Mais figurez-vous qu'il se passe des choses, il se passe des autres trucs. Il y a un moment les syndicats, un moment le Conseil d'État. Enfin bref, toute une histoire à épisodes et à longs épisodes. Et là, figurez-vous que de plus en plus, j'essaye de citer mes sources, d'autant plus quand c'est des médias camarades, que le site Rapport de Force nous a fait une sacrée bonne chronologie de le gouvernement Macron et le chômage. Et je m'en vais vous raconter tout ça. J'arrive à respirer.
C'est pas bon tout ça en ce moment. Hein.
Non, c'est sûr. Mais d'avoir ça sous les yeux, voilà ce que ça m'inspire. Alors on revient à octobre 2017, le relativement début du quinquennat de Macron, l'épisode que Rapport de Force appelle la préparation. C'est la période des discussions préliminaires à Matignon. Les syndicats et le patronat sont invités à échanger avec le gouvernement sur les réformes de l'assurance chômage, de la formation et de l'apprentissage. Rien de concret à ce moment-là. Les syndicats restent dans le flou, mais parallèlement, les déclarations publiques du patronat d'une part et des membres du gouvernement d'autre part sont assez flippantes dès ce moment, puisque Pierre Gattaz, le patron du MEDEF à cette époque, nous dit par exemple « ce n'est plus possible d'avoir un tel taux de chômage et de voir des gens qui utilisent le système pour partir en vacances, faire le tour du monde plutôt que de chercher un emploi ». Les chômeurs, c'est bien connu, font le tour du monde avec les allocations chômage. C'est tellement connu que Castaner, qui à cette époque est porte-parole du gouvernement, nous explique à la même époque que la liberté, ce n'est pas de se dire que finalement, je vais bénéficier des allocations chômage pour partir 2 ans en vacances. Ce qui est le quotidien du chômeur moyen, bien sûr, tout le monde le sait. Et ça marche plutôt bien, puisque 2 mois plus tard, Un sondage Odoxa pour BFM Business, Aviva et Challenge montre que deux tiers des Français pensent que la part des chômeurs qui pourraient trouver du travail s'ils se donnaient davantage les moyens, s'ils se montraient moins difficiles, cette part est importante. On se dirige tout droit vers le tour de vis. En avril 2018, c'est l'épisode que le rapport de force appelle le coup de bâton. Le gouvernement présente sa loi qui s'appelle la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Alors, parenthèse de moi cette fois, on aime bien les noms des lois de ce gouvernement. Parce qu'entre la loi pour la liberté de manifester, qui est une loi pour faire flipper d'aller en manif, ou la loi pour une école de la confiance, qui n'est pas du tout, les gens qui pensent encore que c'est une énième réforme de merde de l'école se trompent, c'est pas ça, c'est bien la pire loi sur l'école depuis Jules Ferry. Bref, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel? Eh bien, pour les chômeurs, alors quelques rares droits nouveaux pour les démissionnaires et les indépendants en particulier, pas grand-chose en réalité. Mais surtout, plus de contrôle et des sanctions plus lourdes pour insuffisance de recherche d'emploi. En septembre 2018, maintenant, c'est ce qu'ils appellent le coup de bluff, qui est en réalité une sorte d'arnaque. Le Premier ministre de l'époque, donc Édouard Philippe, demande aux organisations syndicales d'un côté et patronales de l'autre de négocier, de faire vivre le dialogue social à propos des règles de l'assurance chômage. Et donc, on les met ensemble dans une pièce et on leur dit, quand même, il y a une lettre de cadrage, une lettre de mission en quelque sorte, qui leur dit, voilà, il faut que vous discutiez sur la manière d'économiser entre 1 et 1,3 milliard par an sur 3 ans et réduire l'usage des contrats courts parallèlement. En précisant, bien sûr, que s'il n'y a pas d'accord entre syndicats et patronat, l'exécutif reprendra la main. Si les partenaires sociaux n'arrivent pas à se mettre d'accord, bon, ben... Et puis, c'est la fin de l'année 2018, c'est le 30 décembre 2018 précisément. En guise de bonne année, le décret pour sanctionner davantage les chômeurs est publié au Journal officiel, donc la veille de la Saint-Sylvestre. Parmi les mesures... le fait que quelqu'un qui refuserait deux fois une offre dite raisonnable, une offre d'emploi raisonnable, alors raisonnable, bien sûr, les critères du raisonnable sont individualisés, hein, mais quelqu'un qui refuserait deux fois une offre raisonnable, ses indemnités chômage sont suspendues pendant un mois. S'il récidive, s'il refuse encore, c'est suspension pendant deux mois, s'il refuse encore, c'est suspension pendant quatre mois. Et les mêmes sanctions sont applicables aux chômeurs qui refuseraient d'actualiser leur projet personnalisé d'accès à l'emploi. Et ce projet personnalisé d'accès à l'emploi, c'est quoi? C'est justement ce qui permet de définir les offres raisonnables d'emploi. C'est-à-dire que tu vas voir ta conseillère, elle te dit « Là, monsieur, vous ne trouvez pas de boulot, alors maintenant, il faudrait peut-être que vous acceptiez de vous éloigner plus de chez vous. Là, c'est écrit que vous voulez bien aller à 30 km. Mais en fait, on va mettre 50 km ou 100 km. Ça reste raisonnable. Non, vous ne trouvez pas que c'est raisonnable. Sanction, vous trouvez que c'est raisonnable et vous refusez une offre à 98 km. Sanction. La boucle est bouclée. Puis on arrive en février 2019. Patatras, les négociations sur l'assurance chômage échouent. Les fameuses où il fallait que les partenaires sociaux se mettent d'accord. Comme attendu finalement. Tout au long des discussions, le patronat a refusé toute contrepartie, en particulier des histoires de taxation pour les entreprises qui multiplient les contrats de moins d'un mois, les contrats vraiment courts. Et donc, comme ils refusent, après, il n'y a plus moyen de discuter. Et donc là, à ce moment-là, les ministres expliquent que les partenaires sociaux sont incapables de s'entendre, évidemment, et l'exécutif reprend le dossier en main. Et maintenant, c'est lui qui va tailler dans les dépenses. Juillet 2019, là, on est toujours dans l'avant-Covid. Malgré l'hostilité des syndicats et des salariés, le gouvernement publie au Journal officiel son décret qui modifie les règles de l'assurance chômage le 26 juillet. Ça rigole pas. Et donc maintenant, c'est des histoires vraiment de calcul de droits. Donc pour ouvrir des droits, avant il fallait avoir travaillé 4 mois sur 28 mois. C'est-à-dire, sur 28 mois, ça fait quoi? Ça fait deux ans et demi. Il fallait avoir bossé 4 mois sur 2 ans et demi. Et maintenant, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 2 dernières années pour avoir le droit d'avoir une allocation chômage.
Dans cette période, c'est facile, quand même, de trouver du boulot.
Alors, à l'époque, c'était en juillet 2019, la crise. Bon, ça ne veut pas dire que c'était facile de trouver du boulot. Disons que c'était complètement impossible que maintenant. Et puis après, il y a l'histoire de recharger des droits. Donc vous êtes au chômage, vous avez des droits pendant une certaine période, mais pendant ce temps, vous rebossez un peu au milieu. Est-ce que ça va vous redonner plus de droits ou pas? Eh bien oui, si vous travaillez suffisamment. C'est-à-dire que jusqu'à l'époque, mais finalement même jusqu'à maintenant, en fait, il suffit de rebosser un mois au milieu et puis ça vous redonne un peu plus de droits à la fin. Bon, ben, à partir de cette réforme, c'est plus un mois qu'il faudra avoir bossé au milieu, c'est six mois. Ce qui quand même fait une sacrée différence. Et ça, donc, à partir du 1er novembre 2019. Ah, pardon, ça, en fait, c'est passé. C'est passé, c'est pas du tout à passer. Et puis, à partir du 1er avril 2020, le second étage de la fusée, avec la modification du calcul du salaire journalier de référence qui détermine le montant des allocations chômage, bon, etc. Tout ça, ça veut dire, bien sûr, moins de pognon pour les chômeurs. Ça veut dire, c'est pas une question de durée des droits, c'est une question de ce qu'on calcule qu'on vous donne par jour de chômage. Bim, on le fait descendre. 1er novembre 2019, premier volet, c'est parti. Le premier étage de la réforme entre en vigueur. Résultat, quand même, à ce moment, il y a une évaluation d'impact qui a été faite par l'UNEDIC. C'est quand même 710 000 personnes en une année qui vont se retrouver avec des droits soit complètement anéantis, soit énormément réduits. Mars 2020, alors là, les ennuis commencent pour la réforme. Pas pour nous, parce que pour nous, ils ont commencé depuis bien longtemps, mais là, c'est pour la réforme. Mars 2020, ça vous dit quelque chose, mars 2020? Eh bien, mars 2020, il y a cette espèce de virus qui arrive de Chine, la merde, et la merde pour toute la planète. La crise économique est annoncée, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que ça va devenir moins facile de culpabiliser les chômeurs. Du coup, le gouvernement déclare une trêve, et tout s'arrête pour le moment. On reste là où on en est, on touche plus à rien. Alors, d'un côté, les saloperies qu'on a déjà faites, qui sont déjà rentrées en vigueur, les syndicats demandent de les annuler, mais là, le gouvernement dit non. Par contre, les saloperies qui restent à faire, le gouvernement fait « ouais, ok, pas tout de suite ». 27 avril 2020, donc encore en plein confinement, premier confinement. Le pays est confiné depuis plus d'un mois, l'économie est figée, les chômeurs ne peuvent plus vraiment chercher de travail. Et, ah bah tiens, c'est ce que je venais de vous dire, mais c'est plus joliment dit ici. Les syndicats de salariés réclament l'annulation de la totalité de la réforme de l'assurance chômage. Face à cette situation exceptionnelle, Muriel Pénicaud, alors ministre du Travail, promet une adaptation rapide des règles. Elle promet, mais un mois s'écoule, deux mois s'écoule, rien ne se passe, jusqu'au milieu de l'été, où le gouvernement adoucit, mais alors à contre-cœur et un tout petit peu, le volet 1, mais sans l'annuler. Le volet 2 est renvoyé à des discussions pour plus tard avec les partenaires sociaux. Annoncer, décaler, reporter, ces discussions ne débouchent sur rien de concret pendant des mois, jusqu'au coup de tonnerre de la décision du Conseil d'État, 7 mois plus tard, le 25 novembre. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette histoire, c'est que le Conseil d'État, qui a été saisi par des syndicats, juge illégal le volet 2 de la réforme de l'assurance chômage. Dans son arrêt, il nous dit... Du fait des règles qui ont été retenues, le montant du salaire journalier de référence peut désormais, pour un même nombre d'heures de travail, varier du simple au quadruple. En fait, les règles sont tellement baltringues, tellement n'importe quoi, qu'on en arrive à des sortes d'aberrations comme ça. Selon des petits détails, vous allez gagner 1 euro, vous allez gagner 4 euros. Une différence, nous dit le Conseil d'État, de traitement manifestement disproportionnée au regard du motif d'intérêt général poursuivi. Tu m'étonnes. On se rapproche dans le temps, si ça vous saoule, vous en faites pas, j'ai bientôt terminé. C'est le 25 janvier 2021, les discussions doivent reprendre pour, dans l'esprit du gouvernement, trouver un avenir à la partie invalidée par le Conseil d'État. Et finalement, mars 2021, c'est-à-dire hier, pas question de renoncer malgré le Covid-19 et le Conseil d'État. La ministre du Travail, qui est maintenant Elisabeth Borne, a présenté hier les mesures qui figureront dans un décret publié d'ici la fin du mois et dont les dispositions entreront en vigueur le 1er juillet prochain. Finalement, l'ouverture des droits, leur rechargement, comme la dégressivité des allocations, s'appliqueront telles que définies avant la crise, c'est-à-dire tout ce que je vous ai expliqué qui était en projet, ça va être comme ça. Juste, il va y avoir une période transitoire en attendant une meilleure fortune pour le pays, hein. Et donc voilà, c'est la seule chose qu'on a pour alléger, alors presque la seule chose, pour alléger partiellement les mesures. C'est-à-dire qu'on a revu tout ça, on a bien compris que c'était un problème. Juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre quelques mois que le pays aille mieux, puis à la fin, on va y appliquer quand même. Sauf que pour le volet 2, celui qui a été invalidé par le Conseil d'État en novembre, il y a un nouveau mode de calcul qui intégrera un plancher minimal pour le montant des allocations. Vous ne pourrez pas toucher moins de temps. Temps, ce n'est pas encore défini par contre. Les chômeurs qui alternent période de travail et période de chômage, alors eux, ils vont bien, comme prévu, s'en prendre plein la gueule. C'est-à-dire les gens qui bossent quelques jours ou quelques semaines par mois, eux, leurs allocations, bah alors ça va être de la rigolade, de la roupie de Sansonnet, comme disait ma grand-mère. Et si ça passe, donc tout ça, le gouvernement aura réussi le tour de force d'imposer une réforme rejetée par l'unanimité des organisations syndicales et même la CFDT, et en partie invalidée par la plus haute juridiction administrative, un cas d'école.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
À Lyon, le squat du Dur à Cuire, qui est occupé par des migrantes depuis décembre 2019, est menacé d'expulsion et appelait à soutien aujourd'hui, donc cet après-midi. Le Dur à Cuire, c'est le nouveau nom de l'ancien centre médico-psychologique de Caluire, qui est rattaché au Vinatier, à l'hôpital du Vinatier, et qui est un lieu qui est inoccupé, pas l'hôpital du Vinatier, mais le centre médico-psychologique est inoccupé depuis des années. C'est un squat qui avait été ouvert notamment pour faire face à l'urgence après l'expulsion de l'amphisède à Villeurbanne en septembre 2019, et puis qui avait, enfin, donc après l'expulsion de l'amphisède, il avait été mis à la rue plus de 200 personnes. Alors le 12 juin 2020, suite à la plainte déposée par le centre hospitalier du Vinatier, le tribunal a demandé l'expulsion des habitants-habitantes à partir du 1er avril 2021, fin de la trêve hivernale qui sera finalement prolongée au 1er juin 2021. Mais donc ça signe quand même leur expulsion. Lors de ce procès, il a été confirmé que le Vinatier n'avait toujours aucun projet pour ce bâtiment, mais il souhaite le vendre et donc expulser les personnes qui y vivent. Aujourd'hui se tenait du coup au Vinatier le conseil de surveillance, c'est-à-dire l'instance décisionnaire de la gestion de l'hôpital, et les habitants et habitantes sont venus leur demander de renoncer à vendre le bâtiment, de mettre fin à la procédure d'expulsion, d'être maintenus dans les locaux jusqu'à ce qu'ils et elles soient relogés dans des conditions dignes et pérennes, et puis d'être reçus par la direction de l'hôpital du Vinatier et les membres du conseil de surveillance. Donc on vous laisse les écouter directement. C'est pas ça, on va vous laisser les écouter directement quand ce sera le bon son.
Mon nom c'est Yari. Oui, je vis ici à Lyon, à Caluire. Oui, à Vinatier, l'ancien Vinatier. Oui. Ça fait une année que je vis dans une squat. J'ai fait toute ma grossesse dans une squat. Oui, et je vis là-bas avec mon bébé de 3 semaines dans une squat. On a beaucoup de bébés là-bas et on a beaucoup de femmes enceintes là-bas. On a des enfants, on a des familles là-bas. Oui.
Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu la situation ici?
Oui, la situation de là-bas, c'est dur. C'est pas facile pour une femme de vivre dans une squat. C'est pas facile. On a des gens là-bas qui ne sont pas dans l'asile. Et ils ont d'autres là-bas qui sont dans l'asile. L'OFI refuse de nous héberger. Oui, on a des enfants là-bas, des femmes enceintes qui sont toujours là-bas. On est tous là-bas. Tu sais, c'est pas facile de vivre avec une centaine ou de 70aines de personnes avec un bébé là-bas, avec des femmes enceintes, c'est pas facile. Avec tous les 70aines, on n'utilise qu'une toilette, une douche et une cuisine. C'est pas facile pour nous.
Oui, moi c'est Kamara Ousmane Kindo, okay. J'habite à Dur à Cuire, je suis le deuxième représentant de Dur à Cuire, squat Dur à Cuire à Caluire. Bah, les conditions de vie au Dur à Cuire, c'est pas bon, mais du coup on ne peut pas rester dans la rue. Du coup on est à l'abri, on préfère même si ça ne va pas, mais pour dormir dans le froid et dans le chaud quand même, tu vois. Donc on est là-bas, donc au problème de l'électricité, c'est pas bon. Le manger, on n'a pas parce qu'on n'a pas le papier, on n'a pas le droit à travailler. Donc du coup, c'est pas facile. On se démerde comme ça avec le soutien. Dieu merci, il nous vient en aide deux fois.
Ouais.
Et alors aujourd'hui, pourquoi vous avez décidé de vous faire entendre? Qu'est-ce qui se passe en fait?
Donc aujourd'hui, pourquoi on veut que tout le monde nous entende aujourd'hui, toute la France, s'il est possible. Parce que là où on dort à Durakir, ils veulent nous expulser, ils vont nous faire quitter là-bas. Donc si on quitte là-bas, c'est pas bon. Là où on doit rester, on est avec les bébés, on est avec les gens malades parmi nous. Donc on a quels sans-papiers qui sont là-bas. Il faut qu'ils nous logent, il faut qu'ils nous logent dans les conditions normales.
Qui est-ce qui veut vous expulser? C'est le directeur de l'hôpital, c'est ça?
Bah, le directeur de l'hôpital, c'est lui qui a la voix, c'est lui qui a l'ordre. Tu vois, donc ils ont vendu la maison, l'appartement. Donc tu vois, c'est eux pour lui, c'est eux qui doivent nous dire, ouais, vous pouvez laisser là-bas. Tu vois, c'est pas chez nous, mais s'ils nous disent, ouais, on peut vous laisser d'abord rester jusqu'à votre procédure, ou bien s'ils veulent nous expulser, n'attends nous loger ailleurs, on est prêt, mais tu peux pas faire sortir quelqu'un, tu le mets au dehors. C'est pas bon, c'est pas normal, donc c'est ça.
Et là, il n'y a eu absolument aucune promesse de relogement
Pour le moment, il n'y a aucune promesse de logement. Ils disent rien, ils sont calmes dans leur coin tranquillement. Donc nous, on est dans la merde, donc on n'entend rien. On ne les voit pas. Seulement des catastrophes qu'on voit, seulement des mauvaises nouvelles qu'on entend sur les oreilles tout le temps. C'est pas normal. Il faut qu'ils disent quelque chose de nous.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des limites par terre.
Contre la machine
à expulser. on va faire un petit point sur les navires humanitaires en Méditerranée. Et on va commencer par le Sea-Watch 3 qui, après 7 mois d'immobilisation par les autorités italiennes, a pu reprendre la mer fin février. Et en 5 jours, le navire a effectué pas moins de 5 sauvetages et secouru 363 personnes. Autant vous dire que si le Sea-Watch 3 n'était pas de sortie, ces 363 personnes seraient soit, pour une partie d'entre elles, mortes, noyées en Méditerranée, et sinon, pour la totalité d'entre elles, ramenées en Libye par les gardes-côtes libyens. Après 3 jours d'attente, ils ont reçu l'autorisation de débarquer en Sicile. Alors ça, c'est pour les personnes qui ont eu la chance, entre guillemets, d'être secourues par le Sea-Watch 3. Mais dimanche, 95 personnes ont été interceptées par les gardes-côtes libyens et 15 personnes ont été portées disparues. Et comme elles sont disparues en mer et que quand il s'agit de migrants, aucune opération de recherche n'est lancée, on ne prend pas trop de risques à dire que 15 personnes sont mortes noyées en Méditerranée ce dimanche. Depuis le début de l'année, c'est au minimum 236 personnes qui sont mortes en tentant de rejoindre nos côtes, chiffre forcément et largement sous-estimé d'après les associations, puisqu'il y a quand même tout un tas de naufrages qui se passent sans qu'on en ait la moindre idée. Du côté du Sea-Watch 4, qui est un autre navire de l'ONG du même nom, bonne nouvelle, il a été autorisé à reprendre la mer hier, après 5 mois de blocage. Alors après quelques manœuvres de remise en service nécessaires, et après une longue immobilisation, il pourra reprendre la mer. Dans un communiqué, la présidente de Sea-Watch ne parle, elle, pas de victoire, mais guillemets, d'une décision tardive qui a empêché le sauvetage de personnes. Dans ce qui était reproché au Sea-Watch 4, c'est quand même assez, assez hallucinant, il y avait notamment le fait que, je cite, « de sauver systématiquement les migrants, même s'ils n'étaient pas en détresse ». Donc c'est vrai que les inspecteurs n'ont pas trouvé à bord du bateau un questionnaire servant à l'équipage pour les aider à différencier un navire qui va couler dans l'heure ou dans la semaine, ou si les personnes sont en hypothermie ou si elles ont juste un peu froid. Ils avaient également à leur bord, dans les autres choses qui leur étaient reprochées, un trop grand nombre de gilets de sauvetage. Voilà, c'est-à-dire pour dire à quel point les autorités italiennes tordent les textes pour leur trouver des trucs à leur reprocher. Et c'est pour ça qu'au-delà du sort du Sea-Watch 4, l'ONG a saisi la justice européenne afin qu'elle se prononce sur l'illégalité de ces blocages, afin d'empêcher les autorités italiennes d'utiliser des leviers juridiques détournés dans le seul but de faire barrage au travail des ONG. Et pour dire à quel point les autorités italiennes sont prêtes à aller pour bloquer les navires, le parquet de Ragusa en Sicile a ouvert une enquête contre l'ONG Mediterranea qui s'occupe du Mare Jonio, enquête qui est pour corruption. Donc là, ça fait quand même sacrément moins rigoler. Déjà, ça fait pas rigoler, mais il risque sacrément gros. En gros, il est reproché à l'association d'avoir accepté un chèque de 125 000 euros de l'entreprise AP Moeller Maersek. Contre la prise en charge, versement d'un chèque qui aurait été en contrepartie d'une prise en charge d'une trentaine de migrants qui étaient bloqués sur le navire commercial dont on avait parlé il y a quelques temps, le Maersk Etienne, appartenant à l'entreprise et qui, on s'en souvient, était bloqué depuis 32 jours sur le navire car il ne recevait aucune autorisation de débarquer. Ils étaient alors au large des côtes maltaises et Malte refusait absolument de tout débarquement du navire. Ils détiennent encore le triste record du blocage le plus long. C'est-à-dire que les personnes s'étaient retrouvées bloquées 38 jours sur un navire commercial qui a de quoi accueillir juste le nombre d'équipages qui était, je crois, de mémoire, une douzaine à l'époque. Donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout la capacité d'accueillir autant de gens. L'équipage en question était formé pour conduire un navire commercial et pas pour effectuer des opérations de sauvetage ou pour gérer des gens qui sont dans la détresse, qui sont en état... Enfin, tout le savoir-faire des ONG... Qui patrouille en Méditerranée, c'était vraiment, ce qu'ils jouaient là, c'était quand même assez dramatique. Et donc voilà. Donc le parquet accuse l'ONG d'avoir accepté ce chèque contre la prise en charge de personnes à bord, ce que l'ONG nie bien évidemment. Donc en gros, dans la tête du parquet sicilien, l'entreprise aurait appelé l'ONG en disant « Bon, on vous file 125 000 boules et vous chopez les migrants qui sont sur notre bateau ». L'ONG nie et le transfert s'est fait dans l'unique but de mettre les gens en sécurité sur un navire ayant la capacité d'accueillir autant de personnes et avec des personnes formées à secourir et à tenir face à ce genre de situation. Du côté de l'entreprise, on assure n'avoir même pas été contacté par la justice italienne. Bon, alors, comme personne, dans tous les cas, ne nie l'existence de ce chèque, on peut partir du principe que ce chèque a été fait. Ça, c'est à peu près, je pense, le seul truc qui doit être vrai dans cette histoire. Et honnêtement, le pourquoi du comment il a été fait, on s'en fiche pas mal. Est-ce que l'ONG a accepté de la thune pour un truc qu'elle aurait très certainement fait de toute façon, n'a rien de scandaleux. C'est-à-dire que c'est pas une ONG qui s'est ramenée là et qui avait jamais mis les pieds en Méditerranée. Je veux dire, le Mare Jonio, il passe son temps au même titre que le Sea-Watch à faire des tours en Méditerranée, c'est leur raison d'être. Voilà, merci, c'était ce que je cherchais. Ou qu'une chef d'entreprise confrontée par surprise et de manière assez rude à un sauvetage dans des conditions particulièrement difficiles s'est pris une réalité dans la gueule jusque-là ignorée et prenne la décision de lâcher un peu de bifton pour soutenir une ONG qu'elle a croisée en mer n'a rien non plus de complètement surprenant, sachant que même si c'est 125 000 euros, je pense que c'est une entreprise qui se porte plutôt bien. Et effectivement, quand ça s'était passé, on en avait pas mal parlé, les tweets et en tout cas les déclarations de la dirigeante étaient loin d'être dégueulasse et elle avait même fini par dire si c'était à refaire, même si c'était rude pour l'équipe, enfin si c'était à faire on le referait parce qu'en fait on n'a pas d'autre choix en mer que de faire ça quoi. Bon, ce qui est plus surprenant en tout cas, c'est l'acharnement à l'Italie, de l'Italie à chercher par tous les moyens de stopper les sauvetages en Méditerranée, et ce avec de sacrés moyens. Dans cette opération, hier à l'aube, c'est pas moins de 10 perquisitions simultanées dans toute l'Italie qui ont été menées dans des domiciles, des centres sociaux et sur les bateaux. Pour l'ONG, il est évident qu'ils sont la cible d'une croisade personnelle du procureur de Ragouze. Là, je les cite, les accusations sont graves, mais la véritable cible sont les opérations de sauvetage en mer que Méditerranée mène depuis 2018. Et j'ai presque envie de rajouter, je pense sincèrement que la cible de ça, c'est les sauvetages en règle générale et de faire flipper les ONG qui mènent les opérations de sauvetage.
Canu Info.
Et on finit par un petit agenda ?
Oui, voilà, très rapide, puisque lundi prochain, ça sera le 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et donc à Lyon, deux manifestations. Une le 7 mars à l'appel du collectif des droits des femmes 69, qui est donc à départ à 14h, place Bellecour. Et le lendemain, rassemblement intitulé « Indispensable, essentiel, mais invisible et sous-payé », le 8 mars, des premières de corvée, à l'initiative de plusieurs syndicats. Là, c'est un rassemblement donc le lundi 8 mars à 15h40. 15h40, c'est une drôle d'heure, mais voilà, place Jean Massé. L'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, le collectif Droits des Femmes 69 appelle aussi à rejoindre la mobilisation de lundi. Et on se quitte pour aujourd'hui avec un petit peu de retard.
Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine.
Ciao.
Merci. Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Rebelle des radios.